l'écoute de RFI, 14h à Washington, 20h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Mathis Limano.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, Mike Waltz qui quitte son poste.
Un personnage clé de l'administration Trump, le conseiller à la sécurité nationale, était dans la tourmente depuis le Signalgate, cette affaire de partage d'informations militaires confidentielles à un journaliste. On rejoint Guillaume Nodin à Washington après les titres. Un accord obtenu dans la douleur, les États-Unis et l'Ukraine ont finalement scellé un partenariat économique. Salué par les deux parties, il prévoit l'accès aux ressources naturelle ukrainienne. Mais que contient-il vraiment? Comment va-t-il être appliqué? C'est notre dossier du soir sur RFI.
Et puis autre grand titre, plus de 100 morts en deux jours en Syrie.
Ouais, pas d'accalmie dans les violences confessionnelles. Elles opposent groupes sunnites proches du pouvoir et la minorité druze. Israël, qui mène des bombardements, promet de répondre avec force si le gouvernement syrien ne protège pas cette minorité. L'État hébreu où les incendies sont sous contrôle. Des feux de forêt ont ravagé les alentours de Jérusalem. La piste criminelle est privilégiée. Et puis en France, 300 000 personnes dans la rue pour le 1er mai, selon le syndicat CGT, 157 000 d'après la police.
Oui, parce que c'est la journée internationale du travail aujourd'hui. Et on en parlera juste après ce grand journal du soir. Mais d'abord, donc, direction les États-Unis, où un personnage clé de l'administration Trump, eh bien, est poussé vers la sortie.
Au lendemain des 100 premiers jours de la deuxième présidence de Donald Trump, les 100 premiers jours les plus réussis de l'histoire, selon lui, le président américain se débarrasse de Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale. Nous sommes avec Guillaume Nodin en direct de Washington. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Mike Waltz était fragilisé depuis plusieurs semaines.
Oui, plus précisément depuis ce que l'on appelle le Signalgate. C'est lui, le conseiller à la sécurité nationale, qui avait ajouté un journaliste à un groupe de discussion sur des frappes américaines contre les Houthis au Yémen. Un groupe comprenant le ministre de la Défense Pete Hegseth est créé sur la messagerie Signal, une messagerie cryptée mais privée et qui ne fait pas partie des outils approuvés pour discuter des questions relatives à la défense. On sait que Donald Trump et son entourage avaient été mécontents mais qu'il avait indiqué vouloir voir comment l'affaire allait se dérouler. Elle s'est mal déroulée pour Mike Waltz. On a appris ensuite qu'il échangeait sur des questions relatives à son travail via un service de courrier électronique privé et que son équipe avait créé d'autres groupes du même genre sur Signal. Plusieurs membres du Conseil de sécurité nationale ont aussi été congédiés après la visite à la Maison-Blanche de l'influenceuse d'extrême droite Laura Loomer. Devant toute l'équipe, elle avait mis en cause leur loyauté. D'ailleurs, après l'annonce du départ de Mike Waltz par plusieurs médias américains, elle a indiqué aux médias en ligne Politico que celui-ci a été loomerisé. Mike Waltz n'est pas un Trumpiste historique, mais plutôt un héritier des néoconservateurs républicains qui s'est rapproché du président. Or, Donald Trump n'aime rien tant que la loyauté, voire l'allégeance, et il aime aussi virer des gens, ce qu'il a réussi à éviter de faire pendant 100 jours, mais apparemment pas plus.
Merci Guillaume Nodin en direct de Washington.
Et la Maison Blanche qui, par ailleurs, salue un partenariat économique complet. Volodymyr Zelensky, lui, le président ukrainien, salue un accord véritablement équitable. Voilà pour les réactions.
Oui, au terme de longues et difficiles négociations, Washington et Kiev sont donc parvenus à sceller un accord. Il prévoit de donner un accès aux entreprises américaines, accès aux minerais, pétrole et gaz présents dans le sol de l'Ukraine. Alors, est-ce une première étape vers une sortie de la guerre? Que contient cet accord et comment peut-il être appliqué? C'est notre dossier du soir sur RFI et c'est avec vous, Achim Lippold du service international. Bonsoir Achim.
Bonsoir Mathis, bonsoir à tous.
Et tout d'abord, pourquoi les négociations ont été aussi difficiles?
Parce que les conditions imposées par Washington étaient inacceptables pour Kiev. Le premier projet d'accord avait été perçu par les Ukrainiens comme une forme d'extorsion, mais le texte signé hier est bien plus équilibré, comme le vient de dire d'ailleurs le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux pays vont donc investir à part égale dans un fonds qui est destiné à financer des projets d'exploitation des ressources ukrainiennes, donc minerais, mais aussi, vous l'avez dit, Mathis, pétrole et gaz. Et une partie des bénéfices servira à reconstruire le pays.
Et le point crucial, c'est que l'Ukraine garde la main sur ses richesses.
Exactement, c'est elle qui décidera seule des zones et des ressources à exploiter. Et surtout, il n'est plus question pour Kiev de rembourser l'aide militaire américaine fournie depuis 3 ans. C'était une exigence au début de Donald Trump, mais elle ne figure plus dans cet accord. Un accord qui, selon la journaliste ukrainienne Tetiana Ogakova, est avant tout politique.
La valeur principale de cet accord, c'est un rétablissement, même s'il soit très partiel en fait, de la confiance entre Kiev et Washington. cette confiance qui était vraiment très remise en question après cette fameuse scène dans le cabinet ovale, il y a cette signification tout d'abord politique parce qu'elle démontre une certaine baisse de tension entre Washington et Kiev, et c'est exactement de quoi l'Ukraine a besoin.
De leur côté, les États-Unis réaffirment leur soutien à une Ukraine libre et souveraine.
Oui, et le New York Times souligne que ce texte engage Washington sur le long terme. Il fallait visiblement passer par un accord à dominante économique pour maintenir l'intérêt de Donald Trump pour l'Ukraine, un pays pour lequel, rappelons-le, il refuse de garantir la sécurité. Le spécialiste de l'Ukraine, Ulrich Buna.
Ça reste un accord purement économique. Lorsque Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avait le premier parlé de cette idée d'accord sur les minerais, je pense qu'il espérait en contrepartie un engagement en termes de garantie de sécurité américaine, et ça, pour le coup, il l'a pas du tout obtenu.
Mais l'application de cet accord reste encore assez floue, Arim.
Oui, exactement, car tant que la guerre continue, il est tout simplement impossible de lancer l'exploitation des minerais. Certains gisements, notamment de lithium, sont situés dans les zones occupées par la Russie, et on ignore encore précisément la quantité de ressources présentes dans le sol ukrainien. Il faudra du temps et d'énormes investissements. L'Ukraine posséderait environ 5% des réserves mondiales, mais il faudra attendre au moins 10 ans avant d'en tirer des bénéfices, selon les estimations.
Merci beaucoup, Arim Lipold, service international de Radio France Internationale.
Allez, il est 18h06 en temps universel. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur RFI. On va évoquer à présent, Mathis Lemano, ce qui se passe en Syrie. Le bilan des violences confessionnelles ne cesse de s'alourdir. D'après une ONG, en 2 jours, plus de 100 personnes sont décédées.
Ah oui, dans des affrontements entre la minorité druze et des groupes sunnites proches du pouvoir central. Des affrontements d'abord en bordure de Damas, qui se sont ensuite étendus jusqu'à Souaïda, une centaine de kilomètres au sud de la capitale syrienne. Tout a commencé lundi soir après un message audio insultant le prophète. Message attribué à un responsable druze et qui s'avère finalement être un faux. En réaction, des milices islamistes radicales ont déferlé sur les communautés druzes de Jaramana et Sahnaya. Mais pour le moment, Alice Froussard, les reproches de la minorité druze se dirigent surtout vers le gouvernement syrien.
Les mots du cheikh Hikmat Al-Hijri sont forts. Pour le chef spirituel de la minorité druze de Syrie, il s'agit, je cite, d'une campagne génocidaire contre sa communauté, visant des civils à leur domicile. Nous ne faisons plus confiance à une entité qui prétend être un gouvernement, martèle-t-il, car un gouvernement doit protéger son peuple. Il faut dire que cette dernière vague de violence qui a commencé lundi soir en banlieue de Damas a surtout réveillé le spectre d'un déchirement de la Syrie selon des lignes communautaires et montre que le chemin sera encore long avant d'unifier le pays. D'un côté, il y a donc les druzes organisés pour défendre leur quartier, rejoints par d'autres miliciens druzes venus leur prêter main forte. En face, des combattants sunnites, anciennement membres de Hayat Tahrir al-Sham, le mouvement islamiste d'Ahmed al-Shara. Mais sont-ils des membres des nouvelles forces de sécurité syriennes? Appartiennent-ils à des groupes radicaux qui évoluent en marge des structures officielles? Ou bien sont-ils rattachés au pouvoir de Damas en échappant à son contrôle? Rien n'est clair pour le moment et ces questionnements sont les mêmes qu'après les tueries de début mars contre les Alaouites, la minorité dont est issu Bachar al-Assad, qui en quelques jours avait fait 1700 morts.
Alice Froussard, le gouvernement central syrien dit vouloir rétablir l'ordre et déploie ses forces de sécurité. Accusé d'instrumentaliser l'hostilité des druzes envers le gouvernement, Israël mène des frappes en Syrie. Tel Aviv a appelé la communauté internationale à protéger les druzes et promet de répondre avec force si le gouvernement syrien ne protège pas cette minorité.
Mais également au Proche-Orient, ces mots, ce qui se passe à Gaza est une abomination.
La colère exprimée aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui dénonce particulièrement le sort des enfants. Ils sont des milliers à avoir de graves blessures physiques et psychologiques dont ils ne se remettront peut-être jamais. Ce vendredi marquera les 2 mois du blocus de l'aide humanitaire à Gaza.
En
Radio France Internationale.
Israël. À présent, les feux de forêt sont maîtrisés.
Le pays avait décrété un état d'alerte maximale et mobilisé l'armée. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a même sollicité une aide internationale. Plusieurs pays européens ont envoyé des canadairs, ces avions pour lutter contre les flammes qui ont principalement touché les collines de Jérusalem, à une 30aine de kilomètres à l'ouest de la ville sainte où s'est rendu Sami Bourkhlifa. Reportage.
Lorsque le feu s'est propagé, Yossi était en première loge. Ce franco-israélien vit dans cette région boisée à mi-chemin entre Tel Aviv et Jérusalem.
Et c'était vraiment impressionnant. Impressionnant parce que le feu était partout. Il était dans plusieurs endroits, En même temps, je me demandais comment les pompiers allaient faire pour éteindre le feu, parce que c'était incroyable, c'était effrayant. Et j'ai même filmé l'essai, les feux, etc.
Des vidéos partagées en ligne hier, mercredi, montrent des flammes parfois hautes de plusieurs mètres, des scènes de chaos, des automobilistes bloqués sur la route et plusieurs localités évacuées. Shlomi Bozaglo, pompier, est sur le pont depuis 24 heures.
Now we are controlling the fire.
Le feu a été maîtrisé. On a 12 petits avions et hélicoptères pour surveiller les incendies. Et des Canadair sont arrivés d'Italie. La Grèce pourrait aussi nous envoyer de l'aide. Mais en attendant, on a autorisé les gens évacués à rentrer chez eux.
Car le vent est retombé et avec lui le risque de propagation des flammes.
On a eu une mauvaise météo hier, ça a joué contre nous. Le vent a soufflé à quasiment 100 km/h et on est au Moyen-Orient, il fait chaud. En plus, durant cette période de l'année, en avril-mai, les vents sont très imprévisibles. Ils peuvent changer de direction à tout instant.
Ces incendies ont fait des dégâts matériels, pas de victimes. Des pompiers ont été blessés lors de l'intervention. Samy Bourfait de retour à Jérusalem, RFI.
Les axes routiers fermés la veille ont pu rouvrir. La piste criminelle est avancée par le gouvernement israélien. Les autorités ont procédé à 18 arrestations.
Et puis en Asie, c'est la grande inquiétude. Jusqu'où ira l'escalade entre l'Inde et le Pakistan?
Oui, la crainte d'une guerre ouverte s'accentue entre ces deux puissances nucléaires. Après de nouveaux échanges de tirs à la frontière, Islamabad décide de fermer un millier d'écoles coraniques au Cachemire pakistanais. Point de départ des tensions, l'attentat imputé au Pakistan qui a tué 26 civils la semaine dernière au Cachemire indien. Malgré l'appel à la désescalade lancé par les États-Unis, le premier ministre indien Narendra Modi a donné son feu vert à l'armée pour riposter.
Et je précise juste que ce sera le sujet du décryptage de Clotilde Dumais. Rendez-vous dans une heure pile sur Radio France Internationale.
Et jeudi 1er mai, journée internationale des droits des travailleurs qui a réuni des millions de personnes dans le monde, notamment en France, 300 000 personnes dans la rue selon le syndicat CGT, dont 100 000 à Paris. Mais c'est dans le Nord que le coup d'envoi des défilés a été donné. Syndicats, responsables de gauche et simples citoyens se sont donné rendez-vous à Dunkerque. Objectif, défendre les salariés de la sidérurgie ArcelorMittal, où 600 emplois sont menacés. Victorien Villaume.
Les drapeaux des syndicats éclairés par un grand soleil et cette banderole, industrie en danger, Dunkerque résiste. Philippe Lux, délégué CGT chez Arcelor, a l'impression de revoir toujours le même mauvais film sur l'industrie française.
Mon grand-père était mineur, on a travaillé dans la sidérurgie toute notre vie. On a connu le déclin de la sidérurgie en Lorraine et c'est ce qui va arriver par ici.
On a un savoir-faire et on veut que ça continue, s'inquiète de son côté Jean-Baptiste François, 15 ans d'ancienneté en tant que leader logistique.
Il y a une semaine, on était à 170 emplois supprimés. Aujourd'hui, on a à 300. Comment on sera demain, on ne sait pas. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment qu'on soit défendu avec beaucoup plus d'activité au niveau national et surtout au niveau de l'Europe.
Nationalisation. Pour soutenir ArcelorMittal et demander la nationalisation, de nombreux élus de gauche ont fait le déplacement, des écologistes aux insoumis en passant par les socialistes. Olivier Faure, premier secrétaire du PS.
Et notre volonté, c'est effectivement de venir soutenir celles et ceux qui se battent aujourd'hui pour leur emploi face à un employeur qui a reçu beaucoup d'aide publique et qui, dans le même temps, licencie.
Deux annonces concrètes de la part de la gauche. La direction d'ArcelorMittal va être convoquée en audience par la commission des affaires économiques et une proposition de loi va être déposée pour que l'État mette sous tutelle l'usine de Dunkerque.
Et vous l'entendiez dans le reportage, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, ce soir il dénonce des violences contre des militants et élus socialistes dans le cortège parisien. Il a annoncé saisir la justice. Et puis Romain, si je vous dis comédie française sur le handicap, sortie en 2024 et qui comptabilise plus de 11 millions d'entrées.
Alors, je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça a été un carton, c'est un petit truc en plus.
Exactement, le premier long métrage à petit budget réalisé par Artus. L'humoriste et réalisateur veut aller plus loin. La fondation Artus envisage désormais d'ouvrir des maisons de vacances pour personnes en situation de handicap. Isabelle Chenu.
L'appel aux dons de la Fondation Artus est lancé. Objectif, bâtir ou réhabiliter des maisons de vacances inclusives ouvertes aux personnes handicapées mentales atteintes de trisomie ou d'autisme. Des lieux de qualité afin d'arrêter de faire rimer le médicalisé avec le glauque, explique Artus. C'était le rêve de l'acteur et réalisateur qui porte cette cause depuis longtemps et qui, avec son film Un petit truc en plus, a raflé la mise en salle. Son histoire d'un duo de braqueurs en cavale qui décide de se faire passer pour un pensionnaire et son éducateur dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap, a su toucher de façon drôle et tendre le public. Ce succès et cette mise en lumière lui a permis de monter son projet. La Fondation a reçu une première mise de fonds de 300 000 euros, abondée à part égale par Artus, les producteurs et les distributeurs du film. Le site internet de la Fondation Un Petit Truc en Plus est hébergé sous l'égide de la Fondation Personnage, créée par un autre acteur populaire, Lino Ventura, en 1966, qui avait lui-même une fille atteinte de handicap.
Isabelle Chenu, Artus sera le premier humoriste à remplir pendant deux soirées la grande salle de la Défense Arena à Paris. Ça sera l'année prochaine.
Et on parle ainsi de l'utilité du cinéma. Évidemment, elle n'est pas approuvée. Merci beaucoup Mathis Limanos, c'est le grand journal du soir sur RFI.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Écoutez, au programme qui nous attend dans les prochaines minutes, on va avoir notre dossier consacré au travail. Nous irons au Japon où les jeunes actuels remettent en cause les journées à rallonge qui caractérisent souvent le travail au Japon. Sommes-nous face à un tournant culturel? Et puis nous évoquerons les droits des futures mères en France. Il s'agit également de travail. Ce droit n'est pas toujours respecté. Ainsi, il y a de nombreuses femmes en profession libérale, par exemple, qui ne prennent pas leur congé maternité. Reportage à suivre auprès d'avocates. Mais pour l'heure, sur RFI, voici les sports. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Romain, bonsoir tout le monde.
Alors on va débuter avec le tennis parce que rien ne va plus pour la Polonaise Iga Świątek.
À moins d'un mois de Roland-Garros, tournoi qu'elle a remporté 4 fois, la reine de la terre battue est enlisée. Pas une seule finale de jouée cette année pour l'actuel numéro 2 mondial qui enchaîne les contre-performances. Dernière en date tout à l'heure en demi-finale du tournoi de Madrid avec une défaite 6-1-6-1 face à l'américaine Coco Gauff. Au tour précédent, Iga Świątek avait encaissé un 6-0 au premier set avant de se reprendre face à Madison Keys. Cette fois, elle est boutée du tournoi sans ménagement et les doutes s'accumulent dans la tête de la Polonaise qui tentera de rebondir la semaine prochaine à Rome, un tournoi dont elle est la tenante du titre. Quant à Coco Gauff, elle disputera samedi la finale à Madrid face à la lauréate de la seconde demi-finale qui opposera tout à l'heure Arina Sabalenka, la Biélorusse, à l'Ukrainienne Elina Svitolina.
Voilà pour le tableau féminin. Côté masculin, on connaît trois des quatre qualifiés pour les demi-finales à Madrid.
Casper Ruud s'est tout d'abord débarrassé en deux manches du Russe Daniil Medvedev, le Norvégien double finaliste de Roland-Garros qui affrontera en demi-finale Francisco Cerundolo, l'Argentin 21e mondial. Il a renversé le jeune Tchèque Jakub Mencik, récent lauréat du Masters 1000 de Miami, sur le score de 3-6, 7-6, 6-2. Vainqueur pour sa part du Masters 1000 d'Indian Wells, c'était juste avant Jack Draper. Le Britannique verra lui le dernier carré à Madrid. Le gaucher expédié l'Italien Arnaldi, 6-0, 6-4. Et puis le dernier quart de finale vient de débuter. Il oppose l'Italien Lorenzo Musetti au jeune Canadien d'origine guinéenne, Gabriel Diallo.
Allez, le foot après la Ligue des Champions, la Ligue Europa, ce soir à l'honneur, les demi-finales allées.
Avec un invité surprise dans le dernier quatuor, Bodø/Glimt, c'est comme okay. Ça qu'on prononce. Tout premier club norvégien à atteindre le dernier carré d'une Coupe d'Europe. Après avoir mystifié l'Olympiakos, le Pirée et la Lazio Rome, l'actuel champion de Norvège va tenter de surprendre Tottenham, les Spurs seulement 16e de Première Ligue qui mise tout cette saison sur la Ligue Europa. Mais quoi qu'il arrive, lors de cette double confrontation, l'entraîneur de Bodø/Glimt est d'ores et déjà très fier du parcours européen de son équipe. Écoutez, Kjetil Knudsen.
Je suis incroyablement fier de représenter Glimt, de ce qu'est Glimt et de tous ceux qui, d'une certaine manière, ont suivi Glimt au fil du temps. Et puis c'est clair que pouvoir faire ce que j'aime le plus dans la vie avec des gens que vous aimez beaucoup et ensuite se tester face à des adversaires de plus en plus bons au fil du temps, c'est une incroyable expérience. Je pourrais y repenser dans quelques années, mais je suis déjà extrêmement heureux d'avoir participé à cette aventure avec Glimt.
Bodø/Glimt qui joue le match aller de cette demi-finale à Londres.
Et un autre club anglais figure dans la seconde affiche du soir.
Manchester United en voyage en Espagne pour affronter l'Athletic Bilbao, le club basque qui participe pour la troisième fois à une demi-finale européenne, avec l'ambition de faire bouillir ce soir son chaudron du stade San Mamés. Confirmation avec l'attaquant d'origine ghanéenne de l'Athletic Bilbao, Nico Williams.
Je pense que ce sera un match très équilibré. Nos supporters vont être à fond derrière nous. Ils vont nous encourager dès la première minute et cela va nous aider à bien entrer dans la rencontre. Pour moi, il n'y a pas de favori. Manchester est une grande équipe avec des joueurs de niveau mondial qui peuvent jouer n'importe où, comme Bruno Fernandes. Depuis le début, nous, on a adopté un profil bas et je pense que c'est notre marque de fabrique à l'Athletic. On est très concentré, rempli d'espoir, comme toute la ville et les supporters. On va tout donner et faire du mieux possible pour arriver en finale.
Athletic Bilbao, Manchester United et Tottenham, Bodø/Glimt, coup d'envoi à 19h, temps universel. Et puis l'on suivra également ce soir, Romain, les demi-finales allées de la Ligue Europa Conférence avec d'un côté Betis Séville et Fiorentina et de l'autre Djurgårdens, le club suédois, face à Chelsea.
Ça fait pas mal de belles affiches. Merci beaucoup Eric Mamrut. Il est 21h19 à Kiev. Où Volodymyr Zelensky fait part ce soir de sa satisfaction après l'accord conclu entre son pays, l'Ukraine, et les États-Unis, accord portant sur l'exploitation des ressources minières de Kiev. C'est l'aboutissement de plusieurs semaines de négociations entre les deux pays. Et d'ailleurs, le président ukrainien fait référence à ces discussions dans sa première réaction. Il affirme, je cite, que l'accord a changé de manière significative au cours du processus de préparation. Il s'agit désormais d'un accord véritablement équitable qui crée des opportunités d'investissement significatifs en Ukraine. Fin de citation. Cet accord permet aux entreprises américaines d'extraire des minerais, du pétrole, du gaz en Ukraine. Comment faut-il interpréter ce texte qu'intervient deux mois après, souvenez-vous, cette altercation à la Maison-Blanche entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump? Eh bien, élément de réponse avec la journaliste et politiste Tetiana Ogarkova, responsable du département international à l'Ukraine, Crisis Media Center, invitée d'Anne Kantner, à la mi-journée sur RFI.
La valeur principale de cet accord, c'est un rétablissement, même s'il soit très partiel en fait, de la confiance entre Kiev et Washington. Cette confiance qui était vraiment très remise en question après cette fameuse scène dans le cabinet Oval, après l'arrêt de l'aide militaire de la part des États-Unis avec l'arrêt de renseignement. Donc tout ceci était vraiment au point très bas. Aujourd'hui, avec cet accord-là, donc il a cette signification tout d'abord politique avant d'être économique et réelle. Elle est politique parce qu'elle démontre une certaine baisse de tension entre Washington et Kiev. Et c'est exactement de quoi l'Ukraine a besoin actuellement, puisque je tiens à rappeler, nous sommes toujours en guerre et la préoccupation majeure de la totalité de la population, c'est de comment faire de la sorte que de protéger l'Ukraine davantage et de ne pas perdre le partenariat aussi fragile que soit-il avec les États-Unis. Et donc, mais on espère justement que avec cette restauration d'une partielle de la confiance, on pourrait envisager d'autres accords qui nous apporteront plus de garanties de sécurité, qui restent évidemment la priorité numéro un de l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est bien de parler de la restauration de l'Ukraine, de la reconstruction de l'économie. Tout ceci est évidemment important, mais avant que tout ça soit possible, il faudrait que la guerre cesse et que l'Ukraine bénéficie d'une paix durable.
Mais ça, une garantie de sécurité, vous pensez que l'Ukraine peut l'obtenir encore de la part des États-Unis?
C'est une grande question. Malheureusement, on n'a pas de réponse à cette question. Les derniers mouvements que nous avons vus, malheureusement, n'allaient pas dans ce sens. Nous voyons très bien que, malheureusement, cette nouvelle administration de Donald Trump, elle détient cette position, en tout cas pour aujourd'hui, une position isolationniste pour l'Ukraine, mais tout aussi bien pour l'Europe. Mais nous espérons qu'avec ces petits pas de restauration de confiance, sans doute, la ligne directrice va rentrer, en fait, dans cette idée de respect des alliances américaines transatlantiques et comprendre qu'en fait, ce qui se passe en Europe, c'est capital et c'est fondamental tout aussi bien pour les États-Unis.
Tetiana Ogarkova, au micro d'Anne Kantner dans RFI Midi.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et place à présent à notre dossier consacré au travail. En ce 1er mai, marqué par de nombreuses manifestations, on va prendre la direction du Japon, qui est connu pour être un pays où on travaille beaucoup. Et pour cause, les Japonais prennent en moyenne chaque année 10 jours de congé. Il semble cependant que les temps soient en train de changer. On va en parler avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval. Bruno, vous nous dites en effet qu'un nombre grandissant de salariés, et notamment des jeunes, remettent aujourd'hui en cause une culture d'entreprise qui a toujours sacralisé le travail.
Voilà, près d'un employé sur deux déclare en faire le moins possible au travail, opter pour le service minimum en somme. Ces salariés n'ont aucun plan de carrière, ne briguent pas la moindre promotion et ne prennent jamais d'initiative. Ils ne s'intéressent d'ailleurs pas aux tâches qui leur sont assignées. Seuls 6% des salariés se disent passionnés par leur emploi. Aux yeux des autres, faire acte de présence au bureau suffit. La priorité est ailleurs, à la vie de famille, aux loisirs, etc. Ce que comprennent parfaitement ces employés tokyoïtes.
Ne pas sacrifier sa vie pour son boulot, veiller à garder un peu de temps pour soi et ses proches, moi franchement, ça ne m'a jamais paru infamant.
Monter en grade, c'est forcément s'exposer, devoir faire des arbitrages et gérer des conflits.
Tout cela n'est pas mon fort. Rester à mon petit niveau me convient mieux. Davantage de responsabilités, c'est à la fois moins de temps pour soi et plus de stress. Non merci.
Avec mon salaire de misère, je ne vois vraiment pas pourquoi je m'investirais plus dans mon travail.
Alors Bruno Duval, ce sont des témoignages qui inquiètent le gouvernement japonais, parce qu'il faut rappeler que le pays déjà souffre d'une productivité qui est moins élevée que dans les autres grands pays industrialisés. Les autorités, justement, que font-elles pour tenter d'inverser cette nouvelle tendance?
D'abord, elles insistent auprès des employeurs pour qu'ils haussent les salaires, qui sont très bas ici, ce qui contribue à la démotivation générale, on l'a entendu. Pour vous donner une idée, le salaire minimum horaire n'est que de 1055 yens, soit 6,50 € contre plus de 10 € en France. Ensuite, le gouvernement tente de rendre la culture d'entreprise plus attrayante en l'humanisant. Par exemple, il compte interdire aux employeurs de faire travailler leur personnel pendant plus de 14 jours consécutifs, alors que depuis des lustres, ils ont le droit de le priver de congé pendant 48 jours d'affilée. Au passage, ça explique pourquoi chaque année, des dizaines de salariés japonais meurent à cause de leur travail. Soit ils sont victimes d'un AVC ou d'un infarctus fatal survenant au bureau tellement ils sont épuisés, soit ils mettent fin à leur jour ne supportant plus d'y être maltraités, victimes de harcèlement professionnel par exemple. D'ailleurs, selon des experts, beaucoup de jeunes font le choix de ne pas s'investir dans leur emploi parce qu'ils ont vu leur père et leur grand-père souffrir au travail. Ils ont la hantise de vivre cela à leur tour, donc font tout pour se protéger.
Eh bien, merci Bruno Duval pour ces explications depuis Tokyo. On revient en France où l'on a battu le pavé en cette journée internationale des travailleurs. Et parmi les chevaux de bataille des syndicats, il y a le droit au congé maternité, droit inaliénable en France, mais tout le monde ne le prend pas. Chez les avocates, 17 d'entre elles ne prendraient pas leur congé maternité, tout simplement parce que la maternité reste un parcours difficile pour ces avocates. Mise au placard, licenciement ou perte de clients, c'est un reportage de Lou Ecal.
Dans la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, l'atmosphère est tendue. Une vingtaine d'avocats et avocates, robes noires sur le dos, sont venus soutenir Lola Delage. Cette avocate demande un renvoi d'audience, c'est-à-dire le report du procès sur lequel elle doit intervenir, car elle est enceinte. Manon est l'une de ses amies.
Ma consoeur, pour des raisons médicales, elle a dû commencer son congé plus tôt que prévu. Elle en a avisé dès que possible le président de la chambre correctionnelle concernée qui lui a indiqué qu'il fallait qu'elle se prépare à ce que cette demande de renvoi soit rejetée et que son client soit jugé sans elle.
Lola Delage est absente depuis le déclenchement de son arrêt maternité. Alors c'est sa consoeur, Sophie Allard, qui plaide pour elle. L'audience est mouvementée. Le représentant du parquet s'agace. Selon lui, Lola Delage a gardé le dossier malgré son arrêt pour continuer à toucher de l'argent. Les avocats se lèvent, indignés. Le report de l'audience est finalement accepté, mais pas d'explosion de joie chez les avocats. À la sortie de l'audience, Sophie Allard semble lessivée.
C'est la pire audience de ma vie. En fait, aujourd'hui, en 2025, on est en train de nous dire qu'un arrêt maternité, et encore plus pathologique, ne justifie pas un renvoi. J'ai pas 10 ans de barre, j'ai pas 20 ans de barre, mais de mon expérience, je n'ai jamais vu un renvoi refusé lorsqu'un confrère fait état d'une problématique médicale.
Lola Delage n'était pas présente, mais ses collègues lui ont raconté l'audience. Elle est sous le choc.
À la base, c'est peut-être un peu naïf de ma part, j'ai pas imaginé que ça allait poser de difficultés. Je comprends pas que ce soit pas un motif légitime de renvoi et qu'on doive se justifier et venir expliquer des choses d'ordre que je considère qui sont d'ordre privé à une audience. Non, c'est franchement très, très regrettable.
Le cas de Lola Delage n'est pas une première. Il y a un an, une avocate a perdu les os et fait une crise d'épilepsie en pleine audience au tribunal de Paris. La raison, le renvoi de son audience avait été refusé. Pour Chloé, avocate, il y a un problème de sexisme au sein de l'institution et faire partie d'une profession libérale n'arrange rien.
Il faut savoir que très peu d'avocates sont salariés. Quand on est libéral, on n'est pas protégé par le droit du travail et donc il y a ce risque d'être licencié du jour au lendemain. Il y a aussi le sujet de comment on garde ses clients. Si on est arrêté pendant 4 mois, on a besoin de mettre en place un certain nombre de mesures. Et une mesure simple, c'est déjà de dire, quand il y a un dossier qui tombe pendant cette période qui est quand même courte, qui est celle du congé maternité, le renvoi, il doit être absolument de principe, sauf situation exceptionnelle.
Cette situation la touche personnellement. Chloé est enceinte de quelques mois.
Reportage signé Lou Ecal. Afrique Soir dans une minute, ne bougez pas.
Ce samedi sur RFI,
Éco d'ici, éco d'ailleurs, Bruno Faure.
Nous vous proposons un voyage au Groenland qui, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, est au centre des attentions. Pour ses minerais critiques, pour les hydrocarbures de l'Arctique, mais ce territoire danois, et qui entend bien le rester, vit surtout de la pêche et développe désormais son tourisme.
Éco d'ici, éco d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
L'intelligence artificielle est une révolution qui impacte l'ensemble de nos activités. Énergie, transport, agriculture, production industrielle. Mais est-ce pour le meilleur ou pour le pire? Et surtout, est-ce compatible avec l'urgence écologique? Nous faisons le point avec nos invités.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Tout à l'heure, à partir de 23h10 TU.
RFI.